Ah, Paul, on va parler de l'espace.
Oui, le monde interstellaire.
Ce qui veut dire, le monde interstellaire, c'est entre les étoiles, c'est ça?
C'est exactement, c'est autrement dit aux confins de l'influence du Soleil, notre étoile, du système solaire, parce que la petite sonde Voyageur 2 a atteint officiellement hier l'espace interstellaire. Donc, dans les étoiles, au-delà de la zone d'influence du Soleil ou de ce qu'on appelle le vent solaire, la sonde, au moment où on se parle, est à 18 milliards de kilomètres.
Est-ce qu'on est encore en contact avec elle?
On est en contact régulier avec
vraiment?
Elle. Et ça demande une technologie incroyable. D'abord, ce sont les immenses soucoupes radiotélescopes qui sont tournés en direction de la sonde, en direction, façon de parler, et qui doivent, ces radiotélescopes, filtrer tout le bruit cosmique qui est derrière pour aller chercher le tout petit signal télémétrique.
Télémétrique.
Et pour te donner...
Il doit être faible en tabarouette.
Il est tellement faible qu'il n'arriverait pas à alimenter une de tes ampoules de ton arbre de Noël.
Ben voyons donc.
Écoute. Ça prend 2 heures et 16 minutes à la vitesse de la lumière, 300 000 km seconde, la vitesse de la lumière, pour que le signal télémétrique de Voyageur 2 soit encore capté, tiens-toi bien, 41 ans et demi après le lancement de la sonde. Voyageur 2 a été lancé le 20 août 77. T'étais jeune?
J'étais pas mal jeune.
T'avais quel âge?
77. J'avais 13 ans.
Tu vois,
14 ans.
T'avais 14 ans, quand Voyageur 2 a été lancé de Cap Canaveral. Et quelques jours plus tard, Voyageur 1 a été lancé le 5 septembre 77. Et ce qui est incroyable, Bernard, c'est que les deux sondes renvoient encore un signal.
C'est formidable.
C'est absolument inimaginable.
Ce sont ces sondes-là qui nous ont envoyé les très belles images des différentes planètes qu'on a vues.
Oui, parce que en 79, Voyageur 2 avait ramené pour la première fois des photos saisissante de la planète Jupiter, la plus...
Les anneaux, hein?
Les anneaux de Saturne, 2 ans plus tard, en 81. La sonde a poursuivi son voyage. 85, c'était Uranus. Et en 1989, la planète Neptune. Et en 2011, le système de propulsion de la petite sonde, le système de propulsion d'appoint, a été mis en marche pour qu'on puisse préserver les batteries le plus longtemps possible. Et là, selon la NASA, on prévoit que le contact avec Voyageur 1 et Voyageur 2 sera perdu à tout jamais vers 2025 ou 2027, après, tiens-toi bien, 50 ans de service. Au-delà de la sphère d'influence du Soleil, c'est-à-dire que la sonde est partie vers en direction d'une étoile, Ross 248, dans la constellation d'Andromède, qu'elle va atteindre dans 40 000 ans.
C'est incroyable.
À bord se trouvent deux disques d'or, deux disques d'or gravés de 30 cm qui sont des espèces de bouteilles à la mer.
Chaque sonde a son disque.
Oui. Dans le disque en question, dans l'une des deux sondes, disons ce disque-là, ce sont des bruits de la Terre. Alors tu entends les cris d'un nourrisson, il y a des lectures de textes littéraires, de la musique classique, et il y a ceci à bord de Voyageur 2. Johnny B. Good.
Hey, j'imagine un extraterrestre.
Exact.
Qui écoute ça.
Et il tomberait sur la célèbre chanson de Chuck Berry. Alors, c'est un des extraits.
J'imagine un petit bonhomme vert
Et qui doit se demander, mais c'est qui celui-là? La NASA estime que la sonde et le disque pourront survivre, attends une minute là, plus longtemps que la Terre et le Soleil.
Ben voyons.
On prévoit 4 milliards d'années.
Ça veut dire que dans 3 milliards d'années,
le Soleil,
quand on sera plus là,
la
Terre
ne sera plus là, le Soleil ne
fonctionnera
plus.
C'est quoi notre durée de vie encore comme
couple de milliards d'années pour le Soleil.
Mais pour la Terre.
Mais le problème, c'est que le Soleil, on prévoit qu'il va grossir. Il va devenir probablement une super géante et manger les planètes intérieures que sont Mercure, Vénus et nous-mêmes.
Mais la Terre, on a 1 milliard d'années encore devant nous, facile?
Probablement.
Bon, OK.
4 milliards à peu près pour le Soleil, peut-être un peu moins. Mm. Mais ces sondes-là sont partis à jamais. Moi, c'est ça que je trouve absolument
fait que ça, incroyable. Ça veut dire qu'une autre...
C'est qu'elle communique encore avec nous.
Une autre civilisation pourrait les trouver. Et là, ils pourraient partir à notre recherche.
C'est une possibilité très mince. Je crois que dans un des films de Star Trek, et là, je fais un appel à tous.
Oui.
Ils sont rapides,
les auditeurs.
Il y a sûrement des Trekkies.
Oui, oui.
Dans un des films, je pense que c'est avec le capitaine Picard, d'ailleurs.
Ah, j'adore
oui.
le capitaine Picard.
Alors, je crois que le vaisseau, l'Enterprise, retrouve Voyageur 2, en quelque part, ou croise Voyageur 2, la sonde.
Ils doivent penser que c'est une présence ennemie. Et là, ils se rendent compte que c'est envoyé par les terriens.
Mais je suis certain qu'il y a des gens qui vont t'informer là-dessus.
Bon.
Mais on fait référence dans un des films de Star Trek à Voyageur 2. Cette sonde-là, elle pèse rien à part ça. Et c'est le meilleur rapport qualité-prix de l'histoire de la NASA.
Je comprends.
Sais-tu combien a coûté tout le programme des deux sondes?
Non, je sais pas.
Le programme a été mis sur pied en 72, les lancements en 77. Ça a coûté 865 millions de dollars.
Divise ça par le nombre de jours.
Ah oui, mais c'est moins.
C'est des pinottes.
Ben, divise ça par le nombre de contribuables américains. C'est quelques sous seulement pour une mine d'informations qui ne cesse de nous parvenir 41 ans et demi plus tard.
Voyageur 1 revient sur Terre dans le premier Star Trek. Premier film, on l'appelle VGER Voyage 1.
Alors, c'est.
Hey, vous êtes bon.
C'est Voyageur 1 qui est dans une autre direction, mais aussi dans l'espace.
Merci, Paul.